les jardinières.
Ce week-end est le dernier week-end de l'été, déjà l'automne qui arrive avec son festival de couleurs et de senteurs. Mais avant de profiter de la nature, on va s'occuper de votre jardin durant une heure. Alors Raphaël étant forcé de rester chez lui, c'est Brian qui nous accompagne ce matin. Bonjour Brian.
Mais bonjour Mylène, bonjour à tous.
Et pour répondre à vos questions et nous parler de compost, on accueille ce matin Jean-Pierre Ribaud. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysages. Merci d'être avec nous ce matin.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end.
7h, 8h, les jardinières.
La pluie a fait son grand retour ces derniers jours et ce n'est pas les végétaux qui vont s'en plaindre. Alors Jean-Pierre, nous sommes à quelques jours de l'automne. On va parler un peu du verger pour commencer, une fois n'est pas coutume. On fait quoi dans son verger ces jours ?
Oui, alors Mylène, en fait, c'est vrai que la pluie est apparue, mais on a eu passablement de dégâts, de maladies sur ces arbres fruitiers. On se rend compte qu'il y a énormément de dégâts, de monilios sur le peu de fruits qu'on a, qui est resté par rapport au froid printanier. Et puis, ces fruits qui sont attaqués de moniliose, c'est des champignons qui sont persistants. Et puis, si on laisse ces fruits sur les arbres, eh bien, au printemps, c'est garanti de revoir un gros démarrage de maladies. Donc, à cette période, soit la cueillette, il y a quand même encore quelques prunes, quelques pommes qui ont survécu. Et puis, tout ce qui est de malade, ça vaudrait la peine de les enlever. Et puis de les mettre non pas au compost, mais plutôt au déchet incinérable pour ne pas reprovoquer ce démarrage de maladie. Et puis, on a toujours un peu la taille de verre, comme on appelle. On aime bien tailler les rejets de tronc, arracher les rejets de base à cette période, parce que les plaies, les interventions par sécateur ou par scie à cette période évitent le redémarrage des rejets l'année prochaine. Donc, on gagne du temps et puis c'est intéressant de le faire à cette période.
Merci Jean-Pierre. Jusqu'à 8h, vous répondez aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend par téléphone au 0901 70 20 20 ou par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous envoyez ce message au 939 ou par formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission, question jardinière avec la possibilité de joindre une photo.
Et dans la suite des jardinières, nous allons tout savoir sur les composts, comment les mettre en place, les entretenir pour ensuite pouvoir utiliser cet engrais naturel. On en parle dans quelques minutes.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Et ce matin, Jean-Pierre, nous avons décidé de parler de compost. Alors, on sait que ça permet de recycler les restes alimentaires, mais aussi les végétaux. Dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres bonnes raisons de faire son compost ?
Alors oui, il y a une très bonne raison, c'est que c'est toute la matière active, organique, végétale, qui est super intéressant pour redonner de l'humus, soit à vos plates-bandes de plantes vivaces, de votre potager, de faire un mulchi au pied de vos fruitiers. Oui, bien sûr que le compost est un produit super intéressant. D'ailleurs, même nous, professionnels, on en utilise des quantités. Après, il y a quelques mesures à mettre en place et à prendre pour éviter soit de la casse, soit des dégâts, soit une arrivée de mauvaises herbes. Mais la solution du compost bien fait est quelque chose de très très enrichissant pour vos aménagements extérieurs et potagers, bien sûr.
Et Jean-Pierre, mais comment ça fonctionne en compost ?
En fait, un compost, c'est un tas ou un cylindre métallique que vous installez dans un coin de votre espace vert et puis dans lequel vous mettez tout ce qui est de déchets végétaux, de déchets de tonte, de feuilles mortes, de ramilles, de plantes vivaces, vos déchets ménagers compostables, bien sûr. Il y a des mesures à mettre en place pour que ce compost puisse s'épanouir. Par exemple, si vous faites un compost uniquement avec du gazon, eh bien là, vous allez avoir une catastrophe parce que ce gazon va fermenter, va devenir en silo et puis va se retrouver en une sorte de beurre, une matière qui n'est pas travaillable, qui n'est pas utilisable. Donc, pour éviter ces problèmes, avec du gazon, par exemple, eh bien il faut mélanger de la feuille, il faut mélanger les restes de vos aliments et puis il faut surtout le retourner. Un compost qui n'est pas retourné, c'est un compost qui devient silo, on peut appeler ça comme ça. Ça sent très mauvais et puis il ne se décompose pas ou très mal ou en tout cas pas dans l'intérêt de pouvoir le réutiliser. Par contre, si vous le retournez, vous l'ouvrez et puis vous retournez et puis vous le remettez en tas, il y a deux manières qui sont importantes à cela. C'est que de un, vous amenez de l'oxygène pour entretenir la microfaune, les bactéries qui se développent dedans pour continuer cette transformation. Et puis également l'humidité qui arrive à repénétrer dedans, parce que sinon votre compost il a plutôt tendance à faire une sorte de parapluie. L'eau qui arrive par-dessus s'écoule sur les bords et puis le centre de votre compost moisit, ne se mouille pas et ne se décompose pas comme il doit.
Merci Jean-Pierre, vous nous avez parlé là de le mélanger, de l'ouvrir. Quand on veut faire un compost, comment on met en place ? Il y en a, on en voit des fois dans les jardins qui sont complètement fermés, des complètement ouverts. C'est important ce choix au départ ?
Alors, je dirais que l'important, si on peut choisir un espace frais dans son milieu vert chez soi pour le mettre en place, c'est nettement mieux parce que le compost, il a besoin d'humidité. Donc, faut en tout cas pas le mettre sur un perron ensoleillé où il va plutôt sécher et pas se décomposer. Et puis après, ça peut être un tas, ça peut être un trou que vous faites dans le terrain et puis vous mettez vos déchets dans ce trou. Par contre, il y a toujours l'obligation d'aller le retourner, hein, que ce soit un trou, une fosse, un tas ou un de ces composts qu'on peut acheter dans le commerce métallique ou des éléments béton. Toutes les mesures sont bonnes pour faire un compost. Le boucher n'est pas la solution parce qu'il faut qu'il y ait de l'humidité et de l'air. Il y a des fois des plastiques qu'on peut mettre aussi sur les pourtours, mais c'est de toute façon des plastiques qui sont troués, donc qui n'ont pas une grande efficacité, si ce n'est que le déchet ne tombe pas autour de la grille, donc j'en vois pas vraiment une grande utilité. Voilà ce qu'il en est.
Merci Jean-Pierre, on va revenir dans quelques instants après une pause musicale, pardon, et vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre dessus et qu'est-ce qu'on peut pas mettre, enfin dedans et qu'est-ce qu'on peut pas mettre dedans. Vous m'avez compris ? On se retrouve dans un instant.
7h, 8h, les jardinières.
Ça va mieux si je vous ouvre vos micros, messieurs. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Nous apprenons à mettre en place un compost. Alors, dans la première partie, Jean-Pierre nous a expliqué les bons gestes. Mais avant de continuer, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des choses... qu'est-ce qu'on peut mettre dans un compost ? Ça, c'est quand même une question assez importante. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans son compost ?
Eh bien, on peut mettre énormément de choses. Il y a surtout des choses qu'il ne faut surtout pas mettre. C'est peut-être plus simple de citer les éléments à ne pas mettre. En fait, tout ce qui est de trop ligneux, tout ce qui est de bois, de branches, même le copeau de bois, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre dans le compost. C'est quelque chose qu'il faut plutôt incinérer, brûler. Mais le problème, c'est qu'à la décomposition du bois, le bois, il emmagasine, il capte un volume impensable d'azote qui se trouve déjà dans les éléments que vous êtes en train de composter. Et puis, ça va créer une carence, en fait. Ça va enlever cet élément qui est hyper important dans le compost quand on voudra l'utiliser. Et puis le bois, pour se décomposer, il faut presque compter une année et demie, deux ans en tous les cas. Et puis quand vous remettrez en fait ce compost qui aura eu encore des déchets de bois, admettons dans votre espace vert, eh bien il va continuer de se décomposer parce qu'il se décomposera beaucoup plus longtemps. Et puis il va toujours créer ce problème de carence d'azote dans l'espace dans lequel vous aurez mis en place votre compost. Alors tout ce qui est de bois, non. Et puis là, on est en train, depuis quelques années maintenant, de se faire envahir par des plantes invasives. Tout le monde a déjà entendu parler de ces problèmes. On a la vergerette, c'est cette petite fleur blanche, enfin 40-50 cm de haut, qui arrive un peu partout. On a le sénesson, c'est une vivace jaune. Après, il y a la renouée, bien sûr, l'impatience glanduleuse, cette fantastique fleur toute rose qu'on trouve dans le bord de nos cours d'eau, mais qui est vraiment invasive. Ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas mettre dans le compost, parce que d'autant plus les composts privés sont des petits volumes. Les petits volumes de compost ne montent pas assez haut en température pour arriver à détruire les semences, à détruire les racines. Et puis, vous avez des risques de repropager ces invasives. Pardon. Même nous, hein, quand on a des invasives, on ne les met pas même dans des composts communaux tels le CO2 pour autrui, parce qu'on ne tient pas à prendre ce risque de contaminer d'autres sites. Donc c'est des choses qu'on met vraiment dans les déchets incinérables. Après, pour tout ce qui est du reste, si c'est bien mis en place, par exemple un bon mélange de feuilles mortes, même vertes, un bon mélange de gazon, les déchets de votre potager, les déchets de votre cuisine, et bien mis en place et bien travaillé, vous avez un super produit. Il est vrai aussi que plus le tas est conséquent, plus il est grand, plus il part en température, et puis plus il se transforme et rapidement, et avec une qualité de produit final qui est super intéressant. Nous, on en utilise quelques centaines de mètres cubes par année, parce que c'est un produit qui est super intéressant, c'est un recyclage naturel, et puis avec de bonnes valeurs.
Et Jean-Pierre, au bout de combien de temps un compost, il est prêt à être utilisé au jardin ?
Alors, ça dépend un peu de ton emplacement, ça dépend de la manière dont il a été fait. Ça peut être entre 6 mois et une année et demie. Ça dépend aussi de la fréquentation du travail que le fait de le retourner, de ramener de l'oxygène et de l'humidité. Tout cela va permettre soit d'activer, soit de freiner cette transformation. Mais à l'évidence, plus vous le travaillerez et plus vite il sera utilisable. Et puis, on peut l'utiliser d'un milliard de sortes de manières. Les meilleures manières de l'utiliser, je dirais, c'est un printanier, parce que tout pendant qu'il est en tas durant l'hiver, il va renfermer ses éléments nutritifs, il n'y aura pas trop de lessivage. Par contre, si par exemple vous dites maintenant cet automne je vais le prendre et le mettre par-dessus mon potager, durant tout l'hiver, la pluie, la neige va lessiver les éléments fertilisants que vous avez dans le compost, et puis évidemment ils seront perdus. Par contre, si vous le laissez en tas, ils vont être emmagasinés dans le tas. Il y aura un petit peu de perte, bien sûr, sur le pourtour, mais pas énorme. Et puis, au printemps, quand vous l'aurez mis en place, ce sera plus du lessivage, mais ce sera, les éléments seront absorbés par les végétaux qui seront soit semés, soit plantés, ou déjà mis en place si vous le servez en mulchie sous une haie, sous des arbres fruitiers, ou quelque chose comme ça. Le même principe qu'un agriculteur utilisera son fumier à bon escient, il le fera au printemps, en tout cas pas à l'automne.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc on répète, mélanger, aéré, humidifié, et puis aussi, comme vous avez dit, mettre différentes sortes de choses dans son compost, la variété, voilà, c'est ce qu'aiment les composts. Suite des jardinières, et bienvenue si vous nous rejoignez. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysage. Notre spécialiste répond à vos questions jardinage jusqu'à 8h.
Posez vos questions sans attendre par téléphone et la chance de pouvoir nous parler en direct au 0901 70 20 20 ou par SMS au 939. Vous tapez jardin, un espace et votre question, ou alors par formulaire disponible aussi sur nos sites internet avec en prime la possibilité de joindre une photo.
En première partie d'émission, en compagnie de Jean-Pierre, nous avons parlé des composts. Alors vous nous avez bien expliqué que ce qui venait de la cuisine, on pouvait mettre du jardin aussi. Et je me posais la question, qu'en est-il des litières de chats, par exemple, ou des litières de petits rongeurs ? Est-ce que ça aussi, on peut mettre sur son compost ?
Oui, Mylène, bien sûr qu'on peut mettre tout ce qui est de litière végétale. Ça veut dire, si vous avez de la paille ou du foin avec un lapin, avec un hamster, ou si vous avez du déchet papier pour ce qui est de la litière de votre chat, ça peut se composter. Par contre, ce qui n'est pas compostable, c'est selon ce que vous achetez dans le commerce pour absorber les urines et puis enlever les odeurs de l'appartement, et puis que c'est un produit qui n'est pas naturel, qui est de synthèse ou je sais quoi, ça c'est quelque chose à mettre plutôt dans les déchets incinérables, parce que vous les retrouvez après et dans votre compost et dans vos aménagements, et puis c'est pas très très écologique à mon égard. Bien sûr, tout ce qui est de fumier, si vous avez, c'est égal, même de la fiente de poule, ça peut se composter, bien sûr. L'important est de nouveau qu'il faut retravailler ce compost pour avoir une substance qui soit vraiment uniforme, bien mélangée, homogène, et puis que vous arriviez à le réutiliser. Plus vous mettrez ce genre d'éléments dans votre compost, et bien sûr, plus votre compost sera riche en éléments fertilisants pour le printemps, sans oublier que non seulement il y a pas que ces éléments nutritifs, il y a aussi la zone, la matière humifère, comme on appelle, et puis ça, c'est quelque chose qui aère les sols, qui vous rend vos sols moins lourds, qui favorise la microfaune, et puis qui permet aux racines une pénétration nettement plus facile dans les sols.
Et Jean-Pierre, je me posais encore une question. On est dans cette ère où les gens veulent faire le moins de déchets possible. On imagine une maman avec des couches pour son bébé, des couches lavables. Est-ce qu'elle peut prendre les selles de son bébé et les mettre également sur le compost ?
Alors oui, bien sûr, ça reste quelque chose qui est dégradable, qui va se transformer et puis retourner en matière nature, bien sûr, oui. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est tous les déchets plastiques, les déchets, enfin tout ce que l'on peut trouver qui ne se décompose pas. Ça, à l'évidence, il faut le prohiber parce qu'on le retrouve après et après et après. On se rend aussi compte, nous, en tant que professionnels, des tas qu'on prend dans les composts de Porrentruy ou de Céode, où ils font un merveilleux travail de criblage, mais il reste des fois des petits résidus de plastique. Et puis c'est tout à chacun qui amène ce compost dans ses grands centres est très propre. C'est d'autant des problèmes en moins et puis une qualité naturelle derrière qui s'en retrouve mieux.
Merci Jean-Pierre, on se retrouve dans quelques minutes, mais avant ça, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous poser vos questions, soit par téléphone au 0 901 70 20 20, ou par message au 939, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous avez aussi la possibilité de le faire par formulaire disponible sur nos sites internet avec la possibilité de joindre une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Vous pouvez poser vos questions en direct à notre spécialiste. Ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud. D'ailleurs, pendant la pause musicale, Françoise nous a appelé. Elle voulait parler de son abricotier. Et puis malheureusement, une fausse manip de téléphone fait que nous avons perdu Françoise. Alors Françoise, si vous nous écoutez, rappelez-nous maintenant au 0 901 70 20 20. C'est juste, Brian, je ne me suis pas trompée de numéro.
C'est juste. Vous avez l'habitude. En fait, vous avez l'habitude.
Oui, c'est pas comme si j'étais là tous les samedis, mais presque. Alors, on va attendre, peut-être que Françoise nous appelle, et puis en attendant, Jean-Pierre, vous allez répondre à d'autres questions. On va parler tomates, hein, les tomates qui ont beaucoup souffert cet été. Et cette personne nous dit, nous devons nous rendre à l'évidence, nos tomates ne vont pas rougir et vont rester vertes sur leurs plantes. Est-ce que vous avez une astuce pour les faire rougir une fois cueillies?
Alors ça dépend de la maturité en fait de construction de la tomate. Si c'est des tomates qui étaient encore en train de grossir, très vertes, ça sera du délicat à arriver à les amener à maturité parce qu'elles ont évidemment pas le statut pour pouvoir mûrir. Si c'est des tomates qui sont déjà grandes et puis qui ne sont juste pas arrivées à prendre la couleur et mûrir, celles-là, si vous les prenez, vous les mettez au soleil sur un bord de fenêtre, il y a des chances que vous arriviez à en sauver encore quelques-unes. Mais c'est vrai que cette année, on a eu d'horribles attaques de moniliose sur les tomates et puis plus d'un carreau de tomates, donc de plates-bandes de tomates n'ont pas survécu, ont noirci et puis ça a détruit toute la récolte. On a eu énormément de pluie cet été, comme on a dit tout à l'heure, également au niveau des champignons, bien ça fait partie de cela. Et puis l'humidité est favorable à malheureusement toutes ces attaques que l'on a eues.
Et ben, mon cher Jean-Pierre, on a retrouvé Françoise qui peut nous poser cette question. Alors Françoise, bonjour.
Ah, nous avons du coup perdu Brian. Ah non, c'est bon,
on est là,
pardon.
Alors Françoise.
Oui, allô ?
Oui, vous êtes là.
Oui, alors, je suis là. Je peux poser ma question ?
Allez-y.
Écoutez, voilà, j'ai planté un abricotier il y a à peu près 3 ans. Il a 2 mètres de hauteur, mais il donne beaucoup de fleurs, mais pas de fruits. Et j'ai l'impression qu'il est trop exposé à la bise. Alors j'aimerais le transplanter, si c'est possible. Et quand dois-je le faire ? Je mettrai contre un grand mur de vigne. Là, il serait bien à l'abri et puis je pourrais peut-être en faire un espalier.
Oui, bonjour Françoise. Oui, bien sûr que l'abricotier chez nous, il passe difficilement sur des milieux très ouverts ou exposés parce que on est quand même à 450 mètres d'altitude. Si malheureusement vous n'êtes en plus pas à Boncourt, qui ont un climat qui est un peu différent.
Au bord du lac.
Mais... au bord du lac. Mais alors du lac Neuchâtel.
À Colombier.
Ok. Oui, mais là, c'est presque étonnant, alors, parce que vous êtes quand même dans une contrée nettement différente que chez nous, hein, Jura, ici, de Léman-Porrentruy. Bien sûr que si vous avez trop de courant, alors quand même ça vaut la peine de le déplacer. Vous pouvez le déplacer d'ailleurs si ça fait 2 ou 3 ans de plantation seulement. Il faut prendre garde de prendre assez large au niveau des racines. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre une motte. C'est plus facile de faire un arrachage en racines nues que de prélever une motte, parce que de un, c'est lourd. De deux, pour qu'elle ne casse pas, ben, il faut être un pépiniériste aguerri, sinon vous ne voulez pas y arriver. Mais en racines nues, il va redémarrer. Donc un maximum de racines, bien sûr. Et puis la période, on est encore un peu tôt. Il faut attendre qu'il ait perdu naturellement ses feuilles. Parce que si vous le faites maintenant, ben chaque feuille est encore une petite usine de transformation de sève et puis d'évaporation d'humidité. Et puis si vous le faites maintenant, ben évidemment, il ne pourra plus absorber d'éléments au niveau du sol parce que les racines auront été déstabilisées. Et puis chaque feuille va continuer à plutôt dégrader le végétal par la transpiration. Donc attendez que toutes les feuilles soient en bas et chutées. Et puis, une fois qu'il est replanté, il est aussi nécessaire de diminuer un peu la couronne donc de l'arbre par une taille assez sévère pour compenser la coupe des racines, parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas tout prélever les racines, il en va rester à l'espace actuel. Alors, pour compenser ce manque de racines, on diminue également le volume de la couronne, d'autant plus si vous pensez le planter sur un bord de façade bien exposé. Eh bien, vous le tournerez de manière à ce que les belles branches soient droite-gauche, et puis tout ce qui se trouve côté façade arrière, eh bien ça, vous pouvez vous permettre de les sectionner hein, pour faire un espalier. Et puis après, je peux vous garantir que sur une façade bien exposée, alors les abricotiers, c'est quelque chose qui est généreux en fruits, peut-être pas cette année, parce on connaît l'histoire du printemps, mais les années passées, ça a bien produit, puis c'était intéressant d'avoir ses propres abricots. Aussi, il faut savoir que l'abricot n'est pas une plante sensible à des maladies particulières. Vous m'auriez dit un pêcher, je vous aurais dit c'est beaucoup plus compliqué, parce que le pêcher est une plante super sensible à la cloque du pêcher. Donc, je n'ai pas trop de soucis pour l'avenir de votre abricotier. Si vous prenez des bonnes mesures, avec un bon arrosage cet automne, au printemps, il va redémarrer, puis vous pourriez même déjà avoir des fruits l'année prochaine.
On espère, merci en beaucoup. Tout cas pour vous, Françoise, et puis n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions jardinage. Merci pour votre appel, bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Dans la suite des jardinières, on va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
7h, 8h, les jardinières.
Avant de prendre l'appel de Yvonne, on va juste revenir sur les composts. On a eu un appel d'une agricultrice qui nous a dit « Attention, le rumex, pas sur le compost, Jean-Pierre ».
Oui, à l'évidence, bien sûr, le compost ne supporte pas ou supporte le rumex, mais le rumex ne va jamais se décomposer dans un compost. Après, bien sûr, ce rumex, mais c'est surtout un problème qui est plutôt agricole. Dans le milieu paysager, le rumex et le chardon, c'est pas des éléments qu'on rencontre couramment vraiment par rapport aux autres plantes invasives que j'ai citées tout à l'heure. Mais évidemment, si vous avez un rumex et puis qu'il est en graines, celui-là, faut aussi le mettre dans les déchets incinérables, au même titre que ce qui est de hampe, de graines, de chardon. Mais encore une fois, c'est des éléments, on rencontre pas ça dans nos milieux bâtis. C'est vraiment propre dans les surfaces agricoles et autres. Et puis, mais quand même, voilà, c'est vrai.
On prend note.
Elle a bien fait de relever le problème.
Merci Jean-Pierre. Et puis Brian, de votre côté, un téléphone.
Eh ben oui, on a Yvonne qui nous a appelé pour poser une question. Yvonne, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous laisse poser votre question à Jean-Pierre.
Oui, alors, ma question. Nous avons un grand saule pleureur et il est dit que les feuilles mortes sont bonnes pour les jardins potagers. Ma question est de savoir si les feuilles des saules pleureurs sont aussi bonnes pour les potagers, les jardins potagers.
Oui, Yvonne. Alors, bien sûr, tout ce qui est de végétal, feuilles, même du saule pleureur, sont intéressantes pour composter. Mais il faut vraiment les composter. Elles doivent se décomposer pour arriver à un substrat qui est presque sablonneux, j'entends tourbeux, pour arriver à les réintroduire après dans le potager et autres. Ce qu'il faut faire attention, le saule pleureur, s'il n'est pas taillé régulièrement, il produit une quantité de déchets en dessous de l'arbre qui tombe déjà depuis presque un mois. Et puis vous voulez les avoir jusqu'à la fin de la période végétative, bien sûr. Alors ne mettez pas trop de bois, encore une fois, dans vos composts, parce qu'il est plus négatif d'avoir du bois dans le compost que de ne pas en avoir, par tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour ce qui est des feuilles, toute feuille de végétal est intéressant à composter, pour autant qu'ils soient encore une fois bien travaillés, parce que sinon ça vous fait des amoncellements de feuilles qui moisissent, qui ne se mouillent pas, et puis qui ne se décomposent pas, et puis après c'est plutôt un nid de souris qu'autre chose.
Ah bon ? Donc il faut bien les mélanger avec la terre alors ?
Alors oui, mais il faudrait d'abord les laisser en tas jusqu'au printemps pour qu'elles se décomposent. Parce que les vertes comme elles sont là, ce n'est pas le top. Elles ne vont pas se transformer facilement ou moins facilement qu'en tas. Il faut comprendre qu'un tas de compost, c'est quelque chose qui doit partir en température pour arriver à transformer le végétal. Si vous prenez vos feuilles et puis que vous les mettez par-dessus le potager avec un coup de motoculteur, par exemple, pour les incorporer au sol, eh bien, elles ne vont pas pouvoir partir en température parce qu'il n'y a pas l'effet de ce tas, comme on dit, et puis la transformation sera beaucoup plus lente.
Mais alors, les feuilles qui sont très sèches, qui sont sous les arbres épais qu'on balaye, on peut les mettre alors, si elles sont très sèches?
Non, il est préférable de les mettre en tas pour qu'elles fermentent un coup, justement, qu'elles viennent humides. Et puis après, elles se décomposeront beaucoup plus rapidement que si vous les mettez sur le potager, admettons, pour un mulchi maintenant, et puis un coup de motoculteur pour les incorporer. De un, vous les perdez de la matière organique et les éléments nutritifs durant cet hiver par le lessivage. Et puis, la transformation sera beaucoup plus lente que si vous les mettez en tas. Encore une fois, c'est la température et les bactéries qui vont vous transformer ce tas. Bien mélangé au printemps, vous aurez un super produit plus intéressant à utiliser que de les mettre maintenant, comme vous le dites, en mulchi sur un potager ou une plate-bande.
Merci Yvonne, merci, on espère que Jean-Pierre a bien répondu à vos questions.
Et puis,
Jean-Pierre, merci pour vos précieux conseils. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribot Paysage à Coeur. On vous dit à bientôt.
Merci. Excusez-moi, j'étais encore avec l'autre interprète. C'est gentil, merci à vous. Puis bon week-end à tout le monde. Et puis bon jardinage pour ceux qui peuvent s'adosser à ce job.
Allez-y, Brian.
Non, mais allez-y, Mylène, je vous cède la parole.
Et je voulais vous dire que Jean-Pierre aime tellement se lever tôt qu'on va le retrouver samedi prochain dès 7h pour les jardinières. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment par formulaire sur notre site ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous l'envoyez au 939. Et lâchez-vous sur les détails. On aime ça. Bon week-end, Brian.
Mais bon week-end à vous, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.